Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le doute est trop fort. Les États-Unis ont finalement décidé de clouer au sol les Boeing 737 Max et c'est Donald Trump qui l'annonce. Trop de similitudes entre les deux crashs qui, à 5 mois d'intervalle, ont fait plus de 300 victimes. Les détails après les autres titres.
L'État français poursuivi en justice pour inaction climatique alors que le littoral atlantique s'attend à une nouvelle marée noire. Les entreprises aussi auront droit à l'erreur fiscale. Députés au bord de la crise de nerfs en Grande-Bretagne, des supporters lyonnais déçus mais contents d'avoir joué dans la cour des grands.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas. Elle a été la femme de François Morel dans Les Deschiens. Elle a été une merveilleuse Séraphine. Elle a été césarisée 3 fois. Actrice inclassable, elle irradie de sa présence. Rebelle, le nouveau film d'Alan Mauduit sorti cette semaine en salle. Rebelle, un mot qui lui va bien. Yolande Moreau est notre invitée à 7h50.
Et à 8h20 dans le grand entretien de la matinale, les 4 organisations qui mettent en accusation devant les tribunaux l'État français pour inaction climatique. La démarche est inédite. Intervenez, dialoguez. À 8h20 avec nos invités, 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter. Les boîtes noires du Boeing 737 Max d'Ethiopian Airlines n'ont pas encore parlé. Elles vont être analysées en France dans les jours qui viennent. Mais les premières constatations sur les 2 crashs de ces derniers mois montrent de réelles similitudes, renforcées par les témoignages de plusieurs pilotes américains sur des dysfonctionnements peu après le décollage. Alors après une grande partie de l'Asie, après l'Europe et le Canada, les États-Unis ont annoncé hier l'immobilisation de tous les Boeing 737 Max. Grégory Philippe, c'est à Washington pour France Inter.
Il aura fallu 3 jours à la Maison Blanche et à la FAA pour décider de cette paralysie des Boeing 737 Max, modèle 8 et 9. Mais finalement, c'est Donald Trump qui l'annonce en personne. Ces appareils sont bloqués au sol. Ceux qui se trouvent dans le ciel américain vont jusqu'à destination, mais ne repartiront pas. J'en ai parlé avec la secrétaire au transport, Hélène Chao, dit Trump. J'ai échangé avec l'autorité de sécurité aérienne et avec le patron de Boeing. Tout le monde est d'accord avec cette décision. Boeing est une entreprise formidable. Il travaille très dur pour comprendre ce qui s'est passé, mais tant qu'on n'a pas de réponse, les avions restent au sol. Décision à effet immédiat. Southwest, American Airlines et United se plient immédiatement à l'ordre présidentiel et peu à peu le ciel américain se vide de ses Boeing 737 Max. Mais les syndicats de personnel navigant trouvent que la décision a tardé. Il y a eu 346 morts dans ces 2 catastrophes, dit Sarah Nelson sur MSNBC. Elle représente les hôtesses et stewards. Boeing et la FAA auraient dû réagir plus tôt. Si vous dites, écoutez, il y a un problème et on va s'en occuper, alors l'honnêteté paye toujours. Le régulateur américain, lui, évoque dans la foulée des déclarations de Trump de nouvelles données satellites qui viennent d'être recueillies et analysées et qui, à ses yeux, justifient maintenant le retrait provisoire de tous ces appareils. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et dans la foulée, le Brésil et le Mexique ont annoncé à leur tour l'immobilisation de leur Boeing 737 Max 8.
En France, Agnès, les habitants de la côte atlantique scrutent l'océan avec inquiétude.
Car les premières nappes de fioul lourd sont attendues dimanche soir ou lundi. Cela dépendra des courants et des vents. Une marée noire due au naufrage du navire italien qui a sombré à plus de 300 km au large de La Rochelle avec dans ses cuves 2200 tonnes de pétrole. Un navire spécialisé dans la lutte anti-pollution a quitté Brest pour se rendre sur zone et tenter de limiter les dégâts. Dans cette lutte contre les pollutions, l'État joue-t-il pleinement son rôle? Non, estiment les 4 ONG à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle, plus de 2 millions de signatures à l'heure qu'il est. Des ONG qui s'apprêtent à attaquer l'État pour inaction climatique. La plainte doit être déposée aujourd'hui au tribunal administratif. A-t-elle des chances d'aboutir? Élément de réponse avec Célia Kiré.
Ce serait une première. Le juge pourrait d'abord reconnaître que l'État a l'obligation d'agir pour le climat. C'est l'un des objectifs de cette plainte. Aujourd'hui, cette obligation n'est pas inscrite juridiquement. Ensuite, le juge pourrait reconnaître les manquements de l'État. D'un côté, il multiplie les engagements, réduire les gaz à effet de serre, diminuer la consommation d'énergie, augmenter la part des renouvelables. Mais de l'autre, ces efforts ne sont pas suffisants d'après les ONG. Le juge pourrait le reconnaître. Enfin, et ce serait le plus fort, le juge pourrait enjoindre l'État à agir pour qu'il respecte ses engagements. Il lui imposerait donc des actes. Mais selon certains juristes, le juge n'est pas non plus climatologue. Ce n'est pas à lui de préciser le contenu des mesures nécessaires. Autre scénario, le juge peut tout autant estimer que des efforts sont en cours pour limiter le réchauffement et que si l'État a des objectifs, ils ne sont pas contraignants. L'État peut donc ne pas être condamné. En tout cas, si l'issue de ce recours est incertaine, l'État ne sera pas condamné d'un coup de baguette magique. Sa portée symbolique est très forte. La procédure devrait s'étaler sur 1 à 2 ans. Pas de décision donc avant le printemps 2021.
Et l'on reparle ce matin du droit à l'erreur. Déjà en vigueur pour les contribuables qui arrivent à prouver leur bonne foi, le dispositif doit être étendu aux entreprises. Gérald Darmanin signe aujourd'hui une convention avec une dizaine de sociétés. En clair, il s'agit de prévenir plutôt que guérir en accompagnant les entreprises tout au long de leur démarche administrative pour éviter les déboires qu'a connu Christophe Co à la tête d'une petite entreprise de BTP de 10 salariés à Calais. Antoine Geoffin l'a rencontré.
Il y a 6 ans, Christophe Co recrute 4 ouvriers, loin de s'imaginer que ces embauches lui poseraient problème. 2 ans plus tard, le chef d'entreprise reçoit une contrôleuse de l'URSSAF. Il avait oublié un détail, c'est qu'il travaille à Calais dans une zone franche avec une réglementation très particulière.
Il fallait que j'embauche quelqu'un de la zone franche. Or, les 4 personnes que j'ai embauchées, eux, n'étaient pas de la zone franche. Je me suis mis à pleurer dans ma voiture. J'ai dit, mais écoutez, madame, qu'est-ce que vous me racontez? Vous imaginez ce que vous me dites, là? Je peux mettre la clé sous la porte? Vous savez que je suis de bonne foi. Vous avez tous les éléments en main. Et elle me dit, monsieur Co, je sais que vous êtes de bonne foi. Mais bon, vous savez, les erreurs, ça existe. Et voilà, il faut passer à la caisse.
68 000 euros d'amende. En tout, Christophe Co s'en sort après un redressement fiscal. Mais il paye encore 1 400 euros chaque mois. Alors forcément, quand on lui parle du droit à l'erreur et surtout d'un examen continu des contrôleurs fiscaux, il dit oui.
Il viendrait régulièrement et il demanderait des comptes, etc. On leur expliquerait ou on demanderait des conseils. Ce ne serait que bien. Enfin, c'est... Et quelque part, c'est logique. Les gens viennent, vous connaissent et ils savent à qui ils ont affaire. Quand ils viennent régulièrement dans votre entreprise faire des contrôles, ben, au moins comme ça, ça évite que des gens qui ne sont jamais contrôlé en quoi que ce soit, face des dérives.
Christophe Co reconnaît sa propre dérive de bonne foi, rappelle-t-il, pointant la lourdeur et la complexité des formalités administratives.
Après 1 an de rebondissement, où en est l'enquête pour viol contre Tariq Ramadan? La Cour d'appel de Paris doit se prononcer aujourd'hui sur la demande de l'islamologue de voir lever ses 2 mises en examen. 2 femmes ont porté plainte. Tariq Ramadan a reconnu des relations sexuelles mais nie les viols. Et puis de nouveaux témoignages accablants, 25 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda. France Inter a recueilli en exclusivité la parole de 2 anciens militaires de haut rang qui mettent en cause l'État français. Vous pourrez les entendre dans le journal de 7h30.
Il est 7h08, Agnès. Le tout pour le tout pour Theresa May.
Certes, la première ministre britannique a vu ses 2 propositions rejetées, celle sur un Brexit selon l'accord négocié avec Bruxelles et celle sur un Brexit sans accord. Mais loin de se décourager, Theresa May propose à présent aux députés de revoter ce soir la possibilité de réexaminer l'accord avec l'Union européenne. Correspondance à Londres d'Antoine Gignoux.
En moins de 24 heures, les 2 options de Theresa May viennent de s'écrouler, rejetées par les parlementaires. La première ministre, pourtant, s'accroche à l'accord qu'elle a négocié avec Bruxelles. Malgré le premier rejet du texte au mois de janvier, puis la défaite d'hier soir, elle affirme qu'elle va de nouveau demander aux députés de valider son texte avant la fin du mois de mars. Nous pouvons encore sortir de l'Union européenne, dit-elle, selon les termes de l'accord que le gouvernement a négocié avec Bruxelles. Nous pouvons aussi soumettre cet accord aux Britanniques en organisant un 2e référendum, mais ce serait prendre le risque d'annuler le Brexit. En réponse, vous entendez la clameur des parlementaires, les cris de joie. Dans la foulée, Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, prend la parole. Le parti travailliste, dit-il, a mis au point un plan alternatif, crédible. Beaucoup de parlementaires ici proposent des idées, qu'il s'agisse de rester dans une union douanière, d'organiser un 2e référendum ou un scénario à la norvégienne. Il faut que nous, les parlementaires, nous trouvions une solution. Une solution qui passe forcément par un report du Brexit. Les députés vont donc voter pour demander une extension de l'article 50. Londres, Antoine Gignoux, France Inter.
Une situation qui continue d'inquiéter les douaniers français en grève du zèle depuis plusieurs jours dans les aéroports parisiens, dans le port de Calais et Gare du Nord au départ des Eurostar. Reçus avant-hier à Bercy, ils ont finalement jugé insuffisante l'enveloppe de 14 millions d'euros promise par le gouvernement. Les perturbations devraient donc se poursuivre. Un semblant de retour à la normale au Venezuela avec la réouverture aujourd'hui des écoles et des services publics après 1 semaine d'inactivité due à une gigantesque panne d'électricité. d'électricité. Le courant a été à peu près rétabli. Gros problème à présent, l'approvisionnement en eau, avec de longues files d'attente devant les camions-citernes. En France, condamnation unanime après la menace brandie par le syndicat national des gynécologues français, certes minoritaire dans la profession, mais qui annonçait une grève des IVG en raison d'une bisbille administrative avec le ministère de la Santé. Agnès Buzyn a dénoncé une prise en otage des femmes. Condamnation également de l'Ordre des médecins et du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. À sa tête, le professeur Israël Nizan, sidéré par une telle menace.
Menacer de grève sur l'IVG, c'est rompre avec les principes fondamentaux de notre profession, qui sont d'aider les femmes dans leur santé et dans leur vie sexuelle, chaque fois qu'elles ont besoin des services d'un gynécologue obstétricien.
C'est un peu comme si un néphrologue disait « j'arrête les dialyses ».
Oui, mais ils se sont bien gardés de dire qu'ils arrêtent la chirurgie gynécologique, ils auraient très bien pu. Pourquoi ce choix de l'IVG ? Parce que il s'agit de faire du scandale et d'attirer l'attention. Et je pense que même le fait de simplement avoir pensé qu'on pourrait faire ce chantage-là est inacceptable et inapproprié. C'est le dérapage d'une personne. Mais aujourd'hui, par les temps qui courent, quand il y a un gynécologue qui dérape, c'est toute la profession qui trinque. Donc je suis complètement mais médusé, catastrophé. Voilà, on peut pas dire autre chose.
Propos recueillis par Véronique Julia.
Et non, il est 7h11 et non, le miracle n'a pas eu lieu.
Cette année encore, aucun club français ne jouera les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Barça de Lionel Messi a eu raison de l'Olympique Lyonnais, battu 5-1 hier soir au Camp Nou. Une soirée que les supporters de l'OL restés à Lyon ont vécu pleinement, Blaise Fayol.
L'euphorie n'aura duré que quelques minutes. Rapidement mené, l'OL est revenu à 2-1, alors synonyme d'espoir. Mais un espoir de courte durée, en 3 minutes, Barcelone a marqué 2 buts supplémentaires avant de conclure la soirée sur un score de 5-1. Alors forcément, les supporters sont plutôt déçus, à l'image de Pauline.
Oui, il y a de la déception, ouais. Paris s'est fait éliminer, on est un peu les deuxième grande équipe à rester en compétition. Après, on s'est pas battu non plus, donc on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes aussi. Même si l'arbitre était pas top quand même.
Mais d'autres retiennent aussi l'ambiance, et Peillot salue même le parcours lyonnais.
C'est super sévère et au moins ils nous ont fait plaisir parce qu'on a eu le temps d'y croire. On a vraiment eu le temps d'y croire et nous, les supporters, on est vraiment fiers de vous.
Martin, lui, garde espoir pour les prochaines saisons.
Les belles années, elles sont aussi à venir. On a un bon président, on a des joueurs qui manquent parfois d'envie, mais qui sont des très bons joueurs. Demain, on va y arriver. Demain, on arrivera et on sera fort et on jouera notre jeu et on sera au-dessus. Il y a toujours de l'espoir dans la déception.
À voir quand même si Lyon se qualifie de nouveau en Coupe d'Europe. Lyon, Blaise Fayol, France Inter.
Et tous les yeux se tournent vers Rennes qui dispute ce soir à Londres les 8e de finale retour de la Ligue Europa face à Arsenal après une victoire 3-1 au match aller.
Merci Agnès.